Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut faire passer des tests antidrogue à ses ministres, aux membres de ses cabinets ministériels et même à certains hauts fonctionnaires. Mais est-ce que c'est légal? Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait vous imposer les mêmes tests sur votre lieu de travail? Vous écoutez et vous regardez le 114e épisode de Quid Juris. Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes préparé avec Elsa France en partenariat avec BFM. Quid Juris, vous le savez, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Et l'actualité cette semaine, bah oui, c'est cette circulaire rédigée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, adressée à tous ses ministres, dans lequel il demande d'organiser des tests de dépistage inopinés et obligatoires sous forme de tests salivaires à tous les ministres, à tous les membres de cabinet et même à certains hauts fonctionnaires, ce qui entre nous fait beaucoup de monde. En tout cas, c'est une première qu'il justifie pour des raisons de santé, d'impact sur le service rendu au public, mais aussi au regard, et là je cite le Premier ministre, de la vulnérabilité personnelle qu'implique l'usage de drogue, qui pourrait être exploité par des groupes de pression, des groupes criminels, pourquoi pas des ingérences étrangères. Alors on a bien compris que cette mesure avait valeur d'exemple, qu'elle se voulait exemplaire, mais elle pose de très nombreuses questions juridiques. Bonjour Emmanuel Barbara.
Bonjour Laurent.
Vous êtes avocate associée au cabinet Auguste de Bouzy, enseignante à l'école de droit de Sciences Po Paris, spécialiste en droit social et membre du Club des juristes. Cette mesure impulsée par le Premier ministre, cette circulaire, je le disais, c'est une première. Mais d'abord une question, est-ce qu'en l'état, elle est conforme au droit? Est-ce que le Premier ministre peut comme ça décider qu'il va faire passer des tests antidrogue à ses ministres ou aux membres des cabinets ministériels?
C'est une question pour laquelle la réponse mérite de long développement, mais en tout état de cause, au travers du véhicule qu'il a choisi, la circulaire qu'il peut tout à fait prendre, il a le droit, il a instauré le balbutiement d'un régime qui viendra à être probablement approfondi dans la sphère de la fonction publique.
Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que pour le moment, c'est une première, qu'il n'y a pas de cadre et qu'il est en train d'initier quelque chose qui pourrait faire tache d'huile, jurisprudence?
Alors, jurisprudence, non, puisque précisément, lui, il n'en est pas à la source, mais en tout état de cause, il est susceptible, par cette impulsion, de mettre en œuvre, finalement, ce dispositif, puisqu'il l'a réclamé déjà au sein des ministères, comme vous l'avez rappelé, et plus largement, de diffuser dans, encore une fois, les trois fonctions publiques d'État, territorial et hospitalière, d'une part, et puis pourquoi pas encore plus loin, au travers de règles. Le problème qu'il faut avoir en tête, c'est que le droit public est en matière notamment de discipline. On est en train de toucher la discipline, là, puisqu'il s'agit de juguler ces comportements. C'est de faire en sorte que tous ces textes plutôt disparates, même s'il y en a dans le Code général de la fonction publique, qui pose le principe de ce qu'est une faute professionnelle, et la faute professionnelle, c'est défini par la loi comme étant une atteinte, un manquement à une obligation professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du fonctionnaire, et que dans ce cadre-là, certains comportements sont des manquements. Que sont-ils, ces manquements? Ce sont des manquements soit qui touchent à des obligations professionnelles d'un fonctionnaire, de manière générale, de dire l'étendue des règles d'égalité, etc., vis-à-vis du public. Et puis, il y a depuis 2016, donc là aussi, vous voyez, le droit se modifie, ce qu'on appelle les obligations déontologiques. Et là, qui touche alors au grand principe de laïcité, probité, exemplarité. Enfin, ils ne l'ont pas dit en tant que telle, mais dignité.
Je vous interromps. Là, ce qu'il envoie, c'est un message. Il dit, lorsque vous occupez de telles fonctions, ministre, membre de cabinet ministériel, aux fonctionnaires, ce qu'il appelle des ministres avec des missions, des hauts fonctionnaires avec des habilitations, oui. Donc en matière de sécurité, de défense, c'est très large, ça peut concerner des ambassadeurs, ça peut concerner des officiers, ça peut concerner énormément de gens. Il dit, vous ne pouvez pas faire ces métiers-là si vous êtes usager de drogue. Les deux sont incompatibles.
Oui, mais de le dire comme ça, il faut le traduire en langage
juridique.
Juridique. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est vrai que l'angle qui paraît le plus pertinent à ce stade, ça serait une atteinte du fait de ce manquement portée à ce qu'on appelle la dignité du service public. Et quelle est cette dignité ? C'est précisément l'image et la répercussion que cela implique sur le dit service et la confiance du public vis-à-vis de ce service. Donc, on voit bien que ça peut être un angle qui permet de justifier que l'on puisse rentrer dans la qualification d'un manquement, d'une prise de drogue dûment établie par test salivaire comme étant un manquement professionnel. C'est ça ce que
alors,
j'essaye de m'acharner à définir.
C'est très intéressant parce que en préparant ce podcast, vous m'avez dit, en fait, il joue sur deux terrains qui ne sont pas contradictoires. Il y a le terrain de la discipline. Quelles sont les obligations d'un haut fonctionnaire, d'un ministre, d'un membre de cabinet ministériel. Et puis, il y a le terrain de la santé publique. Et dans sa circulaire, d'ailleurs, il fait référence aux deux. À la fois, il dit « je laisse au ministre le soin de prendre les décisions qui s'imposeraient au cas où un test reviendrait positif ». Et en même temps, il le justifie en disant « c'est un problème de santé publique, les auteurs de cette infraction, entre guillemets, ils se mettent en danger, eux, pour leur santé ». Mais ils peuvent mettre en danger les autres également. Donc, c'est intéressant, ces deux termes.
Alors, c'est l'articulation. En effet, c'est le raisonnement qui aura été utilisé par le passé par le Conseil d'État pour la sphère privée, mais on en reparlera. C'est le fait de dire que, dans le fond, la vérification au travers d'un test salivaire d'un tel manquement rentre dans la politique de prévention en matière de santé et sécurité, pas santé publique, mais santé et sécurité, qui est susceptible, encore une fois, d'être une obligation de la fonction publique, comme des entreprises privées, dès lors que le droit public fait entièrement, dans le Code général de la fonction publique, fait entièrement référence au Code du travail sur les règles qui s'appliquent en matière de prévention de santé et de sécurité. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que, dans le fond, par-delà la vulnérabilité sous un angle davantage, géopolitique, lié à des bandes qui rendraient vulnérables. Voilà, le narcotrafic, à côté de cette sphère-ci qui relève davantage du comportement, à l'évidence, il y a l'idée que la fonction publique, à l'égard de ses fonctionnaires et agents contractuels, a là aussi une nécessité de recourir à la prévention en matière de santé et sécurité. Et c'est un angle intéressant pour bâtir précisément ces règles.
Alors, rentrons dans le détail, parce que ce qui est intéressant, c'est comment ces tests ont lieu. En l'occurrence, ils ont déjà commencé. Le Premier ministre s'y est prêté. J'ai croisé il y a quelques heures la porte-parole du gouvernement qui m'a dit « moi aussi, j'ai fait mon test ». L'ensemble des membres de mon cabinet a fait le test. Ces tests, ils sont obligatoires et inopinés. Donc, inopinés, je comprends que les gens ne sont pas prévenus. Obligatoire, c'est possible, ça ? Celui à qui on propose le test ne peut pas le refuser ?
Écoutez, en l'état des textes et tels qu'ils sont bâtis au travers d'un véhicule qui est relativement bas dans la hiérarchie des normes, n'est-ce pas, administratives, puisque c'est la circulaire et qu'au-dessus, il y a un décret, peut-être qu'avec un décret, ou encore au-dessus, une loi, ou peut-être un arrêté intercalaire, si je puis dire, le système pourrait se bâtir pour le rendre un peu plus robuste. Et ça, c'est une question, qui peut être discutée devant la juridiction administrative. Mais au-delà de ça, dire que c'est obligatoire, enfin, c'est l'objectif, justement. Dès lors que on touche à la matière éventuellement du comportement ou alternativement en matière de prévention de la santé, à ce moment-là, on peut considérer que ça pourrait être obligatoire. Mais attention, ça ne peut pas être obligatoire parce que simplement vous avez passé le pas de la porte. Vous observerez que dans la circulaire, le Premier ministre fait bien attention à demander à ce qu'il y ait une liste d'emplois concernés. Dit autrement, ça ne peut pas toucher tout le monde, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Ça ne peut pas toucher tout le
Alors,
monde.
Alors, on peut même donner, on peut le dire, ça va concerner ceux qui agissent dans le secteur de la sécurité et de la défense, des hauts fonctionnaires, les préfets, les ambassadeurs, les directeurs d'administration centrale, les recteurs, les ministres, évidemment. J'ai même vu que la secrétaire générale du gouvernement et le secrétaire général de la défense et de la sécurité devront eux aussi se faire dépister. Et alors, petite information pour les habitués de Quid Juris, je me suis même laissé dire qu'ils pourraient, à cause de ces tests, y avoir une réunion au Quai d'Orsay, une réunion où ces tests pourraient concerner près de 300 personnes. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des listes, c'est pas pour tout le monde, mais ça fait quand même beaucoup de gens concernés.
En effet. Donc, là aussi, que ces personnes acceptent à titre volontaire toute la liste que vous venez de m'indiquer, notamment les ministres, les porte-paroles, etc., qu'ils le fassent d'eux-mêmes parce qu'ils s'y prêtent volontiers, bah, très bien. Parfait. Mais de là, là, vous me parliez de l'angle obligatoire, de l'obligation. Et là, pour l'obligation, c'est quelque chose qui résulte davantage d'une classification et d'une qualification préalable qui permettent de rendre précisément obligatoire. Parce que sinon, c'est une atteinte quand même, d'une certaine façon. C'est un sujet qui a été largement débattu par le passé. L'atteinte à la vie privée, à la liberté.
Attendez, parce que vous employez un mot absolument fondamental en matière de droit. Dans sa circulaire, le Premier ministre précise que l'objectif est de vérifier que personne au gouvernement ne prend de drogue. C'est ça l'idée.
Bien sûr.
Y compris, et c'est écrit comme tel, dans le cadre privé. D'où ma question, c'est possible pour un employeur, fut-il Premier ministre, même si c'est le plus haut sommet de l'État, est-ce qu'on peut aller fouiller jusque dans la vie privée pour des raisons d'emploi et de travail ?
Alors, écoutez, il se trouve que le droit de la fonction publique prévoit, en effet, qu'il est possible que certains agissements commis par un fonctionnaire soit susceptible d'avoir un impact sur un retentissement particulier, une gravité particulière et une atteinte à l'image et à la réputation du service dans son travail. Et que donc, dans ces circonstances, un agissement qui serait perpétré dans la vie privée soit susceptible d'être sanctionné. Mais attention, c'est sous le contrôle, encore une fois, des juridictions qui regardent avec une attention manifeste et scrupuleuse cet impact sur la vie professionnelle. Mais c'est davantage, j'allais dire, enfin, c'est davantage vu, prévu, dans le droit de la fonction publique qu'ailleurs.
Donc, un test qui aurait lieu lundi matin et qui se révélerait positif parce que usage de drogue le week-end, donc dans le cadre privé, rentrerait dans les critères d'une éventuelle sanction de ce haut fonctionnaire.
Absolument, ça serait en tout cas un sujet de discussion fort utile.
L'autre sujet qui m'a intéressé, c'est qu'il prend soin, on voit bien qu'il a essayé de border cette circulaire sur le plan juridique, parce qu'il dit « chaque ministre doit mettre en œuvre ce dépistage, mais au terme d'une concertation avec les représentants du personnel ». C'est intéressant de mêler les représentants du personnel pour de si hauts fonctionnaires, mais là, pour le coup, on s'inspire de ce qui se passe dans le privé.
Absolument. On voit bien que, ce faisant, cette circulaire a été établie avec un certain nombre quand même une grande attention pour y donner les caractéristiques les plus proches à ce qui a été par ailleurs validé, à savoir. Dans la sphère privée, on appelle ça le règlement intérieur. Mais dans ces circonstances-là, où il n'y a pas de règlement intérieur, d'en discuter avec les représentants du personnel, c'est une façon de co-construire en quelque sorte une règle avec les garde-fous et les modalités selon lesquelles on peut discuter de la dite mesure et qui ça touche et comment ça se passe et quelle est la contre-expertise, puisqu'évidemment...
Et justement...
Ça, c'est une exigence.
On voit bien qu'il a bordé cette circulaire juridiquement, puisqu'il dit, attention, l'intéressé, celui qui va se prêter à ce test antidrogue, il a des droits. Il a le droit à une contre-expertise, il a le droit au respect de sa vie privée, il a le droit même à la protection de ses données personnelles.
Et au secret, effectivement.
Et au secret. Donc, ça veut dire, et j'ai posé déjà la question à plusieurs ministres, je leur ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui se sont révélés positifs déjà aux premiers tests qui ont été passés ? La réponse qui m'a été faite, c'est... vous ne le saurez pas. Si c'est le cas, il y aura des sanctions qui seront prises, mais ils n'ont pas vocation à voir leur nom étalé sur la place publique, ce qui est plutôt protecteur pour le coup.
Absolument, c'est une exigence, en effet, qui a déjà été vue par les juridictions, en effet.
Est-ce qu'il y a une gamme de sanctions qui est prévue ? Je me mets à la place d'un haut fonctionnaire, son test est positif, il a donc fait usage de drogue. Quelles sanctions peut prendre l'employeur, entre guillemets, l'employeur public en l'occurrence ? Est-ce que ça peut être une suspension, un licenciement ? Est-ce qu'il peut, ça peut être une injonction de soins, par exemple ? C'est quoi la gamme des sanctions possibles ?
Alors, la gamme des sanctions qui s'appliquent en matière de fonction publique est très étendue. Il y a 4 groupes. Du groupe 1 au groupe 4. Le groupe 4, c'est révocation ou mise à la retraite, donc en gros éviction pour faute grave, Et les trois premiers groupes sont faits de toute une kyrielle de règles possibles depuis une mise à pied temporaire de 3 jours ou bien de quelques jours, de 15 jours à plus longtemps, ou bien encore redescendre d'un échelon, ou bien être déplacé, ou bien recevoir un blâme, enfin un avertissement ou un blâme. Donc on rangeait en 4 catégories, l'éventail des sanctions est très large. Et pour entrer en voie disciplinaire et en voie de sanction, il ne faut pas oublier les droits de la défense en matière de procédure pour atteindre cette avant d'aboutir à une sanction.
Et là, les droits de la défense. Oui, l'intéressé peut se défendre.
Ah, mais plus que ça, il a accès à tout le dossier, il a le droit d'avoir un défenseur, il a le droit d'avoir communication écrite de l'ensemble de tout son dossier, de toute chose qui lui est reprochée. Parfois, il y a des en fonction de ce dont on parle, il peut y avoir des conseils de discipline. Enfin bref, donc tout cela est un très long processus et les délais pour entrer en voie de sanction sont très longs puisqu'on peut attendre 3 ans, jusqu'à 3 ans.
Encore 2 questions. À propos de ces sanctions, le Premier ministre prend soin de dire dans cette circulaire qu'il laisse à ses ministres le soin d'apprécier les conséquences qui pourraient résulter d'un test positif, y compris sur le plan disciplinaire, y compris sur le fait d'orienter les consommateurs, du coup, de drogue, vers des structures de soins. Et là aussi, j'imagine que dans le privé, mais comme dans le public, il n'y a pas par avance une liste de sanctions prévues pour l'usage de drogue et que ça va être, pour le coup, à l'appréciation des ministres concernés.
Oui, absolument. Et pardon, mais sur ce point précis d'une injonction, si je puis dire, de soins, là, pour moi, ça me fait penser aux dispositions qui s'appliquent devant des juridictions. pénal, le cas échéant, mais que s'agissant des employeurs, j'allais dire traditionnels, ce genre d'injonction serait probablement vu comme une immixtion dans la vie privée
donc,
et dans la santé.
En l'occurrence, l'employeur pourrait susciter ou suggérer des soins, voilà. Mais certainement pas une injonction de soins.
Non, je vois pas ça comme ça, non.
Dernière chose, est-ce qu'on pourrait imaginer demain, aujourd'hui, pour devenir ministre? Il faut faire une déclaration patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. On met tout sur la table, sa fiscalité, son patrimoine, etc. Tout est transparent. Est-ce qu'on pourrait demain demander une déclaration sur l'honneur à des responsables politiques qui souhaitent ou qui s'apprêtent à rentrer au gouvernement en leur disant « vous promettez de ne pas être un consommateur de drogue ». Ça pourrait être envisageable, ça ?
Ça me paraît être une voie totalement possible, en vrai. Parce que vous vous souvenez qu'à l'époque de l'achat TVP, il y a eu une loi, certes, mais ça paraissait déjà extraordinaire d'imaginer une telle, comment dirais-je, déclaration de patrimoine, de revenus, etc. Et donc, cette exigence, au-delà d'exemplarité, mais cette exigence de sécurité, on va dire, pourrait être sollicitée de ce genre de personnes, de ministres, lesquels ministres ne sont pas des fonctionnaires, hein, entre parenthèses, donc ils ne relèvent pas de la CGFP, enfin du Code général de la fonction publique. Donc, on peut tout à fait imaginer que c'est un processus qui pourrait suivre son cours et aboutir à ce que vous dites.
En tout cas, ça envoie un message, et j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que les chiffres sont quand même hallucinants. Il y a 5 millions de Français qui consomment du cannabis chaque année, 1,5 million pratiquement de façon régulière. La cocaïne, c'est 1,1 million de consommateurs. Il y a 750 000 personnes qui utilisent des drogues de synthèse, comme l'ecstasy, par exemple. Donc, je me dis, en voyant ces chiffres, d'abord, ça concerne tout le monde, et c'est un premier message qui est envoyé. Ça peut aussi concerner des hauts fonctionnaires et jusqu'au sommet de l'État. Et puis, je me dis, par ailleurs, que c'est peut-être, avant d'être un problème de contrôle, c'est d'abord un problème de santé publique, donc de prévention. Est-ce que la prévention passe nécessairement par ce type de dépistage sur le lieu de travail, en l'occurrence?
En l'espèce, sans doute, en vrai. Puisque on voit bien que c'est une forme de... Enfin, c'est une véritable nouveauté que cette circulaire qui fait jaillir la notion de test salivaire dans la sphère de la fonction publique. C'est bien que c'est bien qu'il s'agit là de prévenir ce sujet. Et le meilleur angle semble être finalement l'activité professionnelle des personnes. Dans le fond, c'est là qu'on les trouve.
Alors effectivement, quand moi j'ai lu cette circulaire, je suppose que je ne dois pas être le seul, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on pourrait imposer de tels tests de dépistage de drogue sur le lieu de travail de tout un chacun, le mien, le vôtre? C'est la deuxième partie de Coup de Juriste.
Des tests antidrogue au gouvernement, Laurent Neumann reçoit Emmanuel Barbara.
Emmanuel Barbara, on a vu les règles du jeu dans le cadre de la fonction publique, et notamment de très hauts fonctionnaires. Là, on est au sommet de l'État, on est carrément dans les cabinets ministériels, mais sur le lieu de travail d'un salarié du privé. Est-ce que demain, on peut imposer à n'importe quel salarié un test de dépistage antidrogue ?
Ça ne se dit pas comme ça, mais il est évident que dans la sphère privée, le surgissement de du caractère licite de tels tests a été finalement admis, je dis bien finalement admis, ça a été très long, il y a eu beaucoup d'atermoiements. Le Conseil d'État l'a validé, j'allais dire, qu'en 2016. Et en 2016, il est venu dire que oui, le règlement intérieur, et c'est très important parce que le règlement intérieur est le réceptacle de l'ensemble des règles qui s'appliquent, j'allais dire, au fonctionnement de l'entreprise, et notamment en matière disciplinaire, puisque c'est lui qui érige d'ailleurs le système de sanctions envisageables et les cas de figure particuliers tels que, en matière de comportement, tels que ce test salivaire. Et néanmoins, il y a un certain nombre de conditions. Donc non, tout le monde n'est pas susceptible d'être assujetti
à ce type de test. Donc la première condition, c'est que ce soit inscrit dans le règlement intérieur.
Alors c'est important parce que ça implique une conversation, enfin plus que ça, une information-consultation du comité social et économique et une relecture de l'inspection du travail. Donc on a quand même des garde-fous déjà en matière d'intervenants.
Et la deuxième règle, vous l'avez évoquée, c'est que ça ne peut pas concerner tous les salariés, mais certaines catégories d'emplois qui doivent être listées à l'avance. Et donc un salarié qui accepte un job, il doit savoir par avance qu'il est susceptible de passer ce type de test.
En fait, on voit bien que ce genre de test est nécessaire dans le fond deux ou trois catégories de personnes, celles qui ont affaire soit à des machines, soit à des matières dangereuses, la chimie, soit qui conduisent des engins de manutention, des engins de chantier, ou des engins des bus, des voitures, enfin des véhicules, du transport terrestre.
Citer quelques exemples, je les vois bien. Le chauffeur de bus, par exemple, on comprend bien.
Absolument.
Mais par extension, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui est en contact direct avec la clientèle. A priori, un employeur pourrait se dire, moi, je ne souhaite pas que mes salariés qui sont en contact avec ma clientèle puissent être usagers de drogue.
Oui, alors là, je ne suis pas sûre que ça marche en tant que tel, parce qu'encore une fois, dans ce règlement intérieur, il faut en justifier la nécessité.
Alors ça, c'est important, parce que la jurisprudence dit qu'il faut que ce soit proportionné
exactement.
Et justifié.
Voilà.
Mais justifié par quoi ? Par alors, le risque que représente l'emploi en question ?
Alors, vous voyez que, j'allais dire, ces jurisprudences depuis 2016, puisqu'avant, c'était interdit, mais de 2016 à nos jours, les jurisprudences que l'on trouve touchent essentiellement des emplois qui sont définis comme je l'ai fait tout à l'heure. Il n'est pas exclu que l'évolution aidant, l'évolution de la société, l'évolution de ce fléau aidant, que finalement il y ait aussi que certains emplois deviennent à risque du fait d'interactions avec autrui. Et donc il n'est pas exclu qu'il y ait des évolutions comme vous venez de le dire.
Je candidate à un job. Est-ce que le recruteur, le futur employeur, peut m'imposer un test antidrogue ?
Non.
Est-ce que pendant l'entretien d'embauche, on peut m'interroger sur le point de savoir si je suis moi-même consommateur de drogue ou pas ?
Non, je pense que c'est une atteinte à votre vie personnelle, à vos libertés, dans la mesure où
pourquoi
vous n'êtes
parce
pas encore mon salarié.
Ça n'est pas lié à l'emploi lui-même ?
Oui, parce qu'en fait, vous posez une question sur la vie privée, et pourquoi pas demander aussi si vous êtes enceinte, etc. Donc en fait, ça participe de ces questions-là qui touchent aux libertés personnelles.
Mais
et
je
à la
reprends
vie privée.
L'exemple que vous avez pris. Je candidate pour un job de chauffeur de bus ou d'ingénieur sur une machine extrêmement délicate à manier. Bon, l'employeur peut me demander il peut même vouloir vérifier que je ne suis pas usager de drogue.
Oui, mais il ne peut pas le faire comme ça. On peut lui dire, vous savez que si je vous embauche à cet emploi, vous serez éventuellement passible d'être comment dirais-je, en quelque sorte...
D'être testé.
Alors, ça ne peut pas être de façon totalement aléatoire. Il faut qu'il y ait quand même un soupçon. Parce que vous voyez, la jurisprudence commence en 2025, elle est venue dire, il faut que lorsque je vous fais subir ce test, parce que vous êtes susceptible de manipuler des engins, mettons, des engins de conduite, il faut qu'il y ait quand même un soupçon que vous n'avez pas l'air tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on ne va pas vous dire, tiens, puisque vous montez sur la machine, je vais vous demander de bien vouloir faire ce test.
Et même question que je vous ai posée tout à l'heure à propos de nos ministres ou de nos cabinets ministériels, un salarié, il peut refuser de passer le test ?
Alors, il y a de la jurisprudence qui ont montré que dans certaines circonstances, dès lors que le règlement intérieur décrivait le dispositif, que que l'application du test pouvait être applicable dans les circonstances de l'espèce et que le salarié s'y refuse, la Cour de cassation a pu admettre que cela revenait à être un test positif. Si vous refusez, ben c'est que dans le fond, il y a une présomption que le test est positif et que donc, si vous faites l'objet d'une sanction disciplinaire, vous la subissez et que c'est justifié.
On va essayer d'être pratique pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. J'arrive sur mon lieu de travail, on me dit, tiens, ce matin, tu vas passer un test antidrogue. Donc, d'abord, ça doit être dans le règlement intérieur, ça, on a bien compris. J'ai le droit de refuser ou pas avec les risques que j'encours. Mais question pratique, qui le fait, ce test ? Parce que ce n'est pas un test biologique.
Alors, justement, donc, ce n'est pas un test biologique. Absolument, parce que la question s'était posée avant 2016 et le Conseil d'État est venu dire non, ce n'est pas un test biologique, ça n'est pas non plus un geste médical, c'est votre supérieur hiérarchique.
C'est mon N+1 qui va pratiquer le test et qui va vérifier
général,
d'ailleurs
prévu.
Le résultat.
Absolument.
Et m'en informer, j'imagine.
Oui, parce qu'a priori, c'est un test immédiat, je crois.
Absolument.
Et donc, je pense que vous êtes là et on va vous le dire. Et donc, immédiatement, le salarié peut dire, eh bien, je demande une vérification, une contre-vérification. Et puis, on peut faire revalider ce test salivaire qui est rapide, etc., en laboratoire pour avoir quelque chose de plus indiscutable, cas échéant.
Et là, si on m'annonce que ce test, c'est un lundi matin et qu'il se révèle positif, et donc la consommation a eu lieu hors de mon travail, dans le cadre de ma vie personnelle et privée. Je sais que vous êtes très attentive à ces questions de vie privée. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'ai pas le droit. Alors, la drogue est interdite, par définition, mais on peut aller pister ma consommation de drogue dans mon cadre privé ?
A priori, ce serait mal porté en tant que tel. Alors, j'entends que dans votre exemple, on se fasse tester le lundi, ce qui veut dire qu'il y avait le dimanche la veille. Mais dans le fond, encore une fois, l'articulation, enfin, le droit qui est à l'œuvre, c'est celui qui met en cause la prévention de la santé et de la sécurité. Et donc, c'est l'idée que vous allez être à la manœuvre d'un bus, de la conduite d'un véhicule ou de chantier complexe et que vous n'êtes à l'évidence pas totalement en état. Donc le fait de savoir que vous l'avez pris le soir, le dimanche, n'est pas tellement un enjeu. C'est juste que là, vous êtes susceptible de prendre votre poste et que vous n'êtes pas en état de le faire.
Et là aussi, comme dans la fonction publique, il y a une gamme de sanctions possibles ?
Alors, en droit privé, c'est beaucoup plus simple. Le règlement intérieur a pour objet de poser les sanctions, mais de manière générale, c'est essentiellement un avertissement et ou blâme, parfois les règlements intérieurs ne parlent que d'avertissement, mise à pied disciplinaire pour quelques jours, de 3 à 8 jours souvent, licenciement disciplinaire pour faute grave ou non.
Faute grave parce que possiblement l'usage de drogue me met en danger, mais voilà. Peut possiblement mettre en danger autrui.
Et là, ça a été validé. La faute grave peut être admise dans certaines circonstances. Parfois, elle n'est pas admise parce que les faits de la cause ne sont pas avérés. Mais l'enjeu, c'est la faute grave. Oui, c'est une procédure disciplinaire dont l'enjeu est la faute grave.
Alors, je vais vous poser une question totalement naïve. Donc, je découvre avec vous qu'il y a ces tests qui existent déjà dans le cadre d'une entreprise privée. Test anti-drogue. Enfin, la drogue, elle a des effets sur mon travail, mais parfois au moins autant que l'alcool, par exemple. Est-ce qu'on peut me reprocher d'avoir pris de l'alcool ou d'être consommateur d'alcool de façon excessive sur mon lieu de travail ? Je sais que oui, mais dans le cadre privé, avec des répercussions sur mon travail quotidien. Est-ce que ça, c'est possible ?
Alors, c'est totalement possible et c'est même plus facile que le test salivaire pour dépister l'usage de drogue, puisque le Code du travail prévoit qu'il est interdit de séjourner ou d'entrer en état d'ébriété sur le lieu de travail.
Donc je sais que je n'ai pas le droit de consommer de drogue sur mon lieu de travail,
c'est déjà écrit.
D'alcool sur mon lieu de travail, mais je ne peux pas arriver en état d'ébriété sur mon lieu de travail.
Ah non, alors ça, ça serait très mal porté. Et par surcroît, c'est interdit déjà par la loi, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Dans le règlement intérieur, à nouveau, même règles qui sont en fait des jurisprudences antérieures, forcément, à celle du test salivaire pour la drogue, mais là aussi, la jurisprudence est venue valider le fait qu'on puisse avoir de l'alcool, enfin, on puisse, subir un test, un alcotest, en fonction justement de votre état qui n'a pas l'air normal, et en fonction encore une fois de certains postes. Là encore, c'est cette idée de poste pour faire l'alcotest. Mais si en revanche des témoins voient que quel que soit le poste que vous occupez, que vous avez l'air titubant. Il est possible que sur une base moins intrusive, hein, puisqu'il n'y aurait pas de test, mais qu'on dise « Oh, je crains que vous ne soyez en état d'ébriété », ce qui est contraire aux règles qui s'appliquent de manière générale et au règlement intérieur, bien entendu, mais à la loi. Donc, voilà. Donc, en réalité, on se trouve là dans une situation où la sanction est beaucoup plus... est plus accessible en quelque sorte.
Merci Emmanuel Barbara. On a bien compris ce qui se passe dans la fonction publique, on a bien compris aussi ce qui peut se passer dans le cadre d'une entreprise privée. On va évidemment suivre ce qui va advenir de cette circulaire au gouvernement, si évidemment il va y avoir de la casse, entre guillemets, si certains hauts fonctionnaires pourraient être amenés à quitter leurs fonctions. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes, sur la plateforme de notre partenaire BFM évidemment, et sur le site du Club des Juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 115e épisode de Quid Juris. Bonne semaine à tous.